Merci Marie.
Je suis à côté.
Ouais, au cas où. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors c'est vrai que c'est un culte un peu spécial, mais finalement, on est quand même à l'église. Bon, on est, y a pas, vous n'êtes pas là, il n'y a pas tout le monde qui est là, mais on est quand même une petite équipe. Et c'est rigolo de voir l'envers du décor. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Je sais qu'il y a l'église de Sète qui est avec nous aussi, l'église clé. Et tous ensemble, même si on n'est pas ensemble physiquement, Dieu est là. Et c'était bon de voir ce temps de louange avec l'équipe et de pouvoir goûter à la présence de Dieu. C'est tellement bon de goûter à cette présence, c'est tellement bon de pouvoir avoir la chance de connaître notre Dieu. C'est vraiment, on peut commencer chaque journée ou chaque moment juste à remercier Dieu pour qui il est. Juste le remercier parce qu'il est notre papa, parce qu'on a la chance de le connaître. Et moi souvent quand je pense à Dieu, une des choses qui me vient souvent à l'esprit, c'est de me dire qu'il y a tellement de gens qui ne le connaissent pas. Et moi franchement, si je ne connaissais pas Dieu, je ne sais pas ma vie à quoi ça ressemblerait. Mais il y aurait tellement peu d'intérêt à vivre. Il y aurait tellement peu d'intérêt. Dieu, il comble les plus profonds de chacun de nos désirs. Et on sait que c'est sur cette terre et c'est pour l'éternité. Alors du coup, ce matin, j'ai à cœur de vous raconter des histoires de la Bible. Alors c'est des histoires qui sont très connues, je pense que pour la majorité vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, eh ben, ça sera l'occasion pour vous de pouvoir connaître ces deux histoires. Alors c'est deux histoires avec deux personnages, dont le premier, par lequel je vais commencer, qui s'appelle Pierre. Alors Pierre, vous le connaissez. C'est un des 12 disciples. Et Pierre, dans son caractère, c'est quelqu'un qui est assez extraverti. C'est un peu le chef de la bande. Vous savez, dans les 12 disciples, c'est un peu celui qui était le farfelu de l'équipe. Et en fait, c'était un pêcheur. Donc son métier, c'était la pêche. Et ce qui est rigolo, c'est que, en fait, quand il pêchait, dans les évangiles, quand il pêchait, en fait, il attrapait jamais aucun poisson. Alors ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai jamais vu un pêcheur aussi mauvais de toute mon existence. Alors je sais pas si il était déconcentré quand il y avait Jésus qui était avec lui, mais alors je sais pas si c'était tout le temps comme ça ou juste quand il y avait Jésus. Mais alors toutes les fois où on mentionne Pierre le pêcheur, bah zéro poisson quoi. On se dit est-ce qu'il débutait, est-ce que il a commencé la pêche juste avant que Jésus rentre dans sa vie, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est une belle histoire parce que quand il rencontre Jésus, bon, il l'avait déjà entendu parler, il l'avait déjà vu. Mais le premier miracle qui le concerne à Pierre, c'est qu'il est en train de pêcher. Et puis, ben, comme d'hab, le filet est vide. Et là, d'un coup, Jésus lui dit, mais vas-y, essaye de relance une fois le filet. Et puis il le relance, et là, c'est la pêche miraculeuse. Voilà un peu comment il a pu rencontrer Jésus. Et donc Pierre, pour le présenter un peu plus, donc on a dit c'était un leader, c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a quand même marché sur l'eau, c'est quand même pas rien de marcher sur l'eau pour un humain. Si vous y arrivez, vous faites un petit signe. Et donc c'est quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui avait du caractère. Et on voit que dans cette rencontre avec Jésus, eh ben, ce qui est fou, c'est que Jésus lui dit, après cette pêche miraculeuse, viens, suis-moi. Avec son frère, Jésus embarque les deux et il leur dit, suis-moi. Et imaginez, vous êtes à la place de Pierre et vous dites, mais ok, je connais Jésus, bon, j'ai vu je le connais depuis quelques semaines, je vois qu'il est, c'est un prophète ou quelqu'un qui fait des miracles, un envoyé de Dieu, mais de partir sur le champ, c'est quand même quelque chose. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que donc, il part, il quitte son métier, il quitte tout pour suivre Jésus pendant plus de 3 ans. Et au début, il ne pensait pas partir pour 3 ans, mais en fait, il part, et puis finalement, ça a duré jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus meurt. Et ce qui est incroyable, c'est que lequel d'entre nous, aujourd'hui, ne rêverait pas de pouvoir être 3 ans avec Jésus ? Avec Jésus, il a tout connu. Vous savez, il y avait Jésus, le Jésus public et le Jésus privé. Le Jésus public, c'est celui qu'on voit dans les évangiles. C'est celui qui faisait des miracles incroyables, qui annonçait la bonne nouvelle d'un nouveau royaume, du salut. Et puis, il y avait le Jésus aussi en off. Et Pierre, il a goûté à tout ça. Et juste, en réfléchissant à ce message et à ce passage, je me disais, mais Pierre, il a vu des choses extraordinaires. Il a vu de ses yeux, il était en première ligne, il a vu de ses yeux des malades être guéris. Il a vu des gens qui étaient possédés, qui étaient envoûtés, être libérés. Il a vu des enfants qui étaient morts, une fillette notamment qui était morte et qui est ressuscitée. Il a vu Lazare, l'ami de Jésus, qui était mort et qui est ressuscité. Oh, imaginons, on voit ça de nos propres yeux. On voit la puissance de Jésus. C'est juste fabuleux. Et puis, Jésus enseignait, Jésus avait une sagesse incroyable. Et j'imagine que Pierre, dans son intelligence, dans sa façon de penser, il était tout chamboulé. Dès que Jésus ouvrait la parole, il se disait « Waouh, j'avais jamais vu les choses comme ça ». Donc tout son être était touché. Son corps, ses cinq sens étaient touchés. Il en prenait plein les yeux, il en prenait plein les oreilles quand il écoutait Jésus. Et alors, le truc le plus fun quand même, c'est que Pierre, il a pu faire des hugs à Jésus. Il a pu prendre Jésus dans les bras. Il a pu le prendre le matin et lui dire « Ah Jésus, comment ça va ce matin? T'as bien dormi ?» Et le prendre dans les bras, vous savez. Et ça, franchement, c'est quand même kiffant. Hein, c'est quand même kiffant. Des fois, on aimerait bien pouvoir prendre Jésus dans les bras, physiquement le toucher. On peut se saisir de Jésus en esprit, mais on ne peut pas encore le toucher. Et Pierre, il a pu faire ça. Donc, tout ça pour dire que Pierre, il a vécu des choses fabuleuses. Alors, on y reviendra, mais je vais vous présenter un deuxième personnage que vous connaissez sans doute aussi très bien. Et il s'agit de Paul. Saul de Tarse, de son vrai nom. Paul, pour les intimes. Alors, Paul aussi, il a fait une rencontre avec Jésus, mais pour Paul, ça a été un petit peu différent. Alors, Paul, c'est pratique parce que lui, pas besoin de le présenter, il se présente tout seul. Dans les épîtres, et notamment dans l'épître de Philippiens, chapitre 3, il se présente. Donc ça, c'est chouette, parce que du coup, on peut juste lire ce qu'il dit. Donc Paul était quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a été élevé dans une très bonne éducation, quelqu'un qui a fait des hautes études, on pourrait dire aujourd'hui, un intellectuel, quelqu'un qui connaissait les Écritures jusqu'au bout des ongles, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, et quelqu'un qui était zélé, qui aimait Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur, il était tellement zélé que du coup il connaissait les hauts chefs juifs de l'époque. Il travaillait avec eux pour que l'amour de Dieu soit répandu sur la majorité. On pourrait dire qu'il côtoyait les papes ou le pape de l'époque. Donc c'est juste fabuleux parce que du coup il était zélé et il pensait connaître Dieu. Il pensait. Parce qu'il a fait une rencontre qui a changé sa vie. Lui qui connaissait Dieu ne connaissait Jésus que ce Jésus nouvelle secte à la mode, ce Jésus qui s'était autoproclamé fils de Dieu, ce Jésus qui se prenait pour Dieu et qui était une horreur, c'était un blasphème, c'était une insulte pour les Juifs. Parce que les Juifs, pour eux, ils attendaient le Messie, mais le Messie, c'était pas Jésus, c'était pas ce petit enfant né dans une étable. Non, le Messie devait venir comme un roi, il devait venir sur un cheval blanc et venir libérer les Juifs de l'emprise romaine. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe. Pourtant, Jésus, quand il arrive, les Juifs le détestent parce qu'il crée une nouvelle mouvance, un nouveau mouvement. Et Paul détestait ça parce qu'il aimait Dieu. Et il disait, mais ça, c'est des bêtises, ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, il persécutait les premiers chrétiens parce que pour lui, il disait, mais ça, ils sont en train de changer l'image de Dieu, c'est pas le vrai Dieu. Et là, Paul fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Alors, on va lire cette histoire. C'est dans les Actes des Apôtres. Et c'est tout le chapitre 9. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste lire quelques passages. Donc, l'acte, ça commence par Paul qui respire la menace et le meurtre. Parce que Paul était en route pour aller arrêter des chrétiens et pour les arrêter, voire les tuer. Donc, il respirait le meurtre et la menace. À l'époque, il valait mieux pas croiser sa route, surtout si on était chrétien. Et donc, il va sur le chemin de Damas pour aller visiter une synagogue pour voir s'il n'y a pas des chrétiens, pour voir s'il n'y a pas cette secte qui est en train de grandir. Et là, je vous lis donc à partir du acte 9, chapitre 3. Donc, c'est Paul. « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. » Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Voilà, je m'arrête là, on va continuer la suite juste après. Mais là, on voit que Paul fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. C'est un temps extraordinaire. Il est ébloui par la beauté de Jésus. Vous savez, Jésus, quand on va le voir un jour, voilà, quand on va finir cette vie sur terre, on va le voir, il va être tellement éblouissant de sainteté que, en effet, nos yeux seront aveugles. On ne peut pas supporter la sainteté de Jésus. Et Paul, qui était en train d'aimer Dieu de tout son cœur, il fait pour la première fois de sa vie, il rencontre ce Jésus, non pas ce Jésus, l'image qu'il avait de ce Jésus, mais on voit dans ce passage, tout est lié par rapport à ses yeux. Il change de regard. D'un coup, il change de regard. Et là, pendant 3 jours, il est dit, donc il est aveugle, imaginez, il est aveugle, pendant 3 jours, il est aveugle, il ne mange pas, il ne boit pas. Alors, est-ce qu'un aveugle ne peut pas manger, ne peut pas boire ? Si, il pourrait, mais en fait, il ne peut pas manger, parce qu'il est dans un temps où sa vie est toute chamboulée. Il est dans un temps où il vient de réaliser que tout ce qu'il a appris depuis qu'il est petit, c'était faux. Et que cette persécution qu'il faisait contre les chrétiens, ben en fait, il est en train de persécuter Dieu lui-même. Et là, il prend un choc, il prend un hypercute. Et là, ça chamboule toute sa vie. Là, il est entièrement chamboulé. Il y a tout qui change dans sa vie. Et dans ce moment-là, il vit une reprogrammation. Il vit un dépouillement intérieur. Une métamorphose. Et cette métamorphose, moi j'ai vécu aussi ce qu'a vécu Paul. Et plusieurs parmi vous, vous avez vécu ça. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde ce matin et qui n'a jamais vécu ça. Et je peux te dire que quand tu rencontres Jésus dans ton cœur, alors moi j'ai pas vécu, ça n'a pas été comme Paul, j'ai pas vu Jésus, mais ça a été aussi intense. Ça a été différent, mais ça a été aussi intense. Et dans ce moment-là, quand on voit que Jésus, c'est vraiment notre sauveur, qu'on a besoin de ce sauveur, ça change toute notre façon de penser. C'est ce qu'on appelle la conversion, le moment où il y a un avant, un après. On peut connaître Jésus comme Paul qui connaissait Dieu dans les Écritures, mais connaître Jésus intimement, et c'est le but de mon message ce matin, c'est connaître Dieu non pas comme Pierre qui connaissait avec ses yeux, Pierre qui connaissait avec ses oreilles, Pierre qui pouvait faire un hug à Jésus, qui pouvait serrer Jésus dans ses bras, qui pouvait entendre des choses tellement sages, ça le bouleversait. Mais Pierre ne connaissait pas vraiment Jésus. Il l'a connu plus tard, mais pendant les 3 années qu'il a passé avec Jésus, il ne connaissait pas vraiment Jésus. Il connaissait un petit peu de Jésus, mais il ne connaissait pas le vrai Jésus. Et Paul, par contre, lui, il a connu le vrai Jésus. Il a connu le vrai Jésus, pourquoi ? Parce qu'il l'a connu en esprit. C'est son esprit qui a été chamboulé, c'est son esprit qui a été percuté. Et dans ce temps, ça a été un temps de conversion. Ces 3 jours ont été un temps de conversion pour Paul. Il a vécu un changement total, radical. Ça a totalement changé sa vie, entièrement changé sa vie. Et vous savez, dans les Écritures, il y a toujours des clins d'œil. Et le fait que ça a duré 3 jours, pourquoi Dieu l'a laissé 3 jours aveugle ? Pourquoi 3 jours ? 3 jours, ça vous fait penser à rien, 3 jours ? Quelqu'un qui a connu la mort comme Paul, pendant 3 jours, il a connu la mort, une mort spirituelle, une mort où toute sa façon de penser a chamboulé. Il a connu une mort intérieure. Et après, on va voir, il a connu aussi une renaissance. Mais il a connu cette mort intérieure pendant 3 jours. Bien sûr, ça vous fait penser à Jésus. Jésus, quand il est mort à la croix, il a connu une mort pendant 3 jours. Et après, il est ressuscité. Et s'il n'était pas mort, il n'aurait pas triomphé de la mort. Et si Paul n'était pas mort, alors mort, pas mort physiquement, mais mort, on va dire son être charnel était mort, il n'aurait pas pu renaître. Et ce que vit Paul dans ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le baptême de repentance. C'est un premier baptême. On va voir, il y en a d'autres, mais c'est le premier baptême, le baptême de repentance. Si tu as jamais vécu le baptême de repentance, c'est quoi le baptême de repentance ? C'est un moment où tu te dis, mais en fait, ma vie, je ne peux pas la vivre sans Dieu. Ma vie, je suis à l'envers, complet. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai besoin de voir la vérité. J'ai besoin de demander pardon à Dieu pour toutes mes erreurs. De moi-même, je ne m'en sors pas. De moi-même, je fais n'importe quoi. De moi-même, je suis limité. De moi-même, je fais du mal autour de moi. Des fois du bien, mais souvent du mal. Et vous savez, quand on fait du mal, des fois, eh ben, on se sent, on n'est pas fier. Ça dure pendant des jours et des jours. Ça m'arrive pas souvent, mais il y a pas longtemps, je pensais pas que je serais ému, mais il y a pas longtemps, j'ai eu une parole déplacée pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait, vous savez, c'est après coup, quand c'est fait, c'est fait. Hein. On ne peut pas revenir en arrière. Et aujourd'hui, je sais que Dieu m'a pardonné. J'ai demandé pardon à cette personne, elle m'a pardonné aussi. Mais vous savez, c'est dur. C'est dur de savoir qu'on a fait souffrir quelqu'un. Et c'est vrai, quand on dit que les mots tuent plus que les coups, j'ai pu l'expérimenter. Alors, heureusement, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais vous savez, quand ça arrive, on a beau connaître Jésus, c'est douloureux. Et on se dit, mais comment ça se fait que cette parole, elle est sortie de ma bouche? Comment ça se fait que moi, qui veux faire du bien autour de moi, je puisse faire du mal? Eh bien, c'est ça, le baptême de repentance. C'est de dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu changes ma nature. J'ai tellement besoin que tu changes qui je suis. Et je sais que je vais encore tomber, mais Seigneur, je sais qu'avec le baptême de repentance, comme l'a vécu Paul, je sais que j'ai une deuxième chance, et une troisième chance, et une quatrième chance. Alors, on va continuer à lire Acte 9. Donc, on va reprendre un petit peu plus loin, au verset 17. Donc, c'est la deuxième partie de ce qu'a vécu Paul. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Pardon. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Regardez cette métamorphose. Regardez ces 3 jours où Paul a vécu le deuil. Il a vécu la chose la plus basse qu'on puisse vivre sur terre, la honte, le fait de se dire « Mais j'avais rien compris à toute ma vie avant que Jésus se révèle à moi. J'avais rien compris à toute ma vie. J'étais en train de persécuter les chrétiens, mais même j'avais, dans mon cœur, j'avais des mauvaises motivations. » Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ananias, que Dieu avait prévenu d'aller vers Paul, il vient et lui dit qu'il allait retrouver la vue et qu'il allait être rempli du Saint-Esprit. Waouh ! Et ça, c'est le deuxième baptême. On a vu le baptême de repentance. Le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, vous savez, c'est juste incroyable. C'est grâce au baptême du Saint-Esprit qu'on peut passer d'une vie de pierre, le disciple Pierre, qui connaissait Jésus. Toi, peut-être, tu connais Jésus. Tu connais Jésus comme tu le vois avec tes yeux. Mais il y a une différence entre le connaître avec ses yeux et le connaître avec son cœur, avec son esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, vous savez, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit, il n'est pas venu en vous, il y a des choses, votre intelligence ne peut pas comprendre. Votre intelligence peut comprendre certaines choses, mais il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Vous savez, c'est l'exemple, le baptême du Saint-Esprit, je trouve un des bons exemples, c'est comme une carte SIM. Vous connaissez une carte SIM? C'est la petite puce qu'on met dans le téléphone. T'as beau acheter le meilleur téléphone, je ne vais pas citer de marque, le meilleur téléphone qui existe sur cette terre, si dedans il n'y a pas une carte SIM, ton téléphone ne marchera pas. Et si dedans tu mets une carte SIM, mais qui n'est pas encore activée, eh ben, ton téléphone ne marchera pas non plus. Eh ben, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. Depuis que tu es né, Dieu t'a créé avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Et ton esprit, peut-être qu'il est mort, il n'est pas encore activé, il n'est pas mort dans le sens qu'il ne va plus jamais exister, mais il est peut-être mort dans le sens où il n'a pas encore été activé. Et là, si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, tu peux maintenant même, en une seconde, activer ta carte SIM. Parce que sans ta carte SIM, tu peux avoir ton téléphone, tu peux faire des choses sur ton téléphone, mais tu ne peux pas appeler. Si tu n'as pas la carte SIM qui est activée, tu peux surfer sur Internet avec le Wi-Fi sur le téléphone. Tu peux jouer à des jeux, mais tu ne peux pas téléphoner, tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas être connecté avec Dieu. Et si c'est ton cas ce matin, que tu n'es pas encore connecté avec Dieu, ça passe par le Saint-Esprit. Ça passe par le Dieu Saint-Esprit qui va venir en toi. Et pour le faire, c'est facile. C'est juste d'accepter Jésus, comme l'a fait Paul. C'est juste de recevoir la vraie révélation de Jésus. Alors bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut peut-être commencer par voir Jésus avec tes propres yeux. Après, tu vas peut-être commencer à lire les évangiles et tu vas comprendre Dieu avec ton intelligence. Mais il y a plus que ça. Si tu t'arrêtes là, tu es comme ce Pierre. Pierre, il a passé 3 ans avec Jésus. Et on sait tous la fin qu'il a eue. Il a renié Jésus 3 fois. Et en fait, ça aurait été Pierre, ça aurait été moi, ça aurait été n'importe qui d'autre, il aurait renié aussi Jésus. Pourquoi ? Parce que tant qu'on est juste, on connaît Jésus avec nos yeux, on ne peut pas donner sa vie pour Jésus. Et je veux juste prier pour toi là, qui me regarde, que tu aies reçu le Saint-Esprit ou que tu n'aies pas reçu le Saint-Esprit, c'est la même prière. Certains pensent qu'on doit recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, que c'est un baptême, et après on est tranquille. Ça, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. C'est juste être connecté avec Dieu, le Saint-Esprit. Je veux juste prier pour toi ce matin, que tu sois déjà baptisé, que tu aies déjà été baptisé ou que tu n'aies pas encore été baptisé. Saint-Esprit, merci que c'est toi qui révèle le Jésus, le vrai Jésus. Le Jésus qui n'est pas juste un Jésus terrestre, qui n'est pas le petit Jésus de la crèche, qui n'est pas le Jésus qui était humain, mais qui révèle le Jésus sauveur de l'humanité. Le Jésus qui a triomphé de la mort. Le Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Le Jésus qui a vaincu toutes tes difficultés. Si tu as des difficultés ce matin, c'est vers Jésus que tu dois aller. C'est Jésus qui peut tout faire pour toi. Et Saint-Esprit, merci que tu nous révèles l'amour de Jésus. Jésus, quand il est venu vers Paul, il avait de l'amour. Et je prie que cet même amour soit déversé sur tous ceux qui ne te connaissent pas et tous ceux qui te connaissent ce matin, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit que tu prends toute la place ce matin. Et c'est avec toi qu'on veut voir Jésus. C'est avec tes lunettes, avec tes yeux. C'est pas avec nos yeux, mais c'est avec tes yeux qu'on veut voir Jésus révélé. Fais-nous la grâce de ne pas voir Jésus comme Pierre l'a vu pendant ces 3 années. Mais fais-nous la grâce de voir Jésus comme Paul a pu le voir. On te le demande ce matin. On te le demande ce matin. Alors on continue l'histoire de Paul. Donc Paul, il est dit qu'au moment où il retrouve la vue, ses yeux sont comme des écailles qui tombent. Et il recouvre la vue. Et ensuite il est dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Et suite à son baptême du Saint-Esprit, il y a une renaissance. Il revit, il reprend des forces, il remange. Et après qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va se faire baptiser. Et ça c'est le 3e baptême, c'est le baptême d'eau. C'est l'engagement qu'on prend. Une fois que Jésus a touché notre cœur, on a envie de, comme un mariage, vous savez. C'est comme un mariage où on dit à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie, je veux me marier avec toi. Et après, c'est ce que Paul il a fait, il s'est marié. C'est un signe visible des choses intérieures. Et peut-être que pour toi, je sais qu'il y a les baptêmes qui vont être à clé dans 15 jours. Et d'ailleurs, je veux vraiment bénir tous les futurs baptisés. Ça va être un jour de fête et ouais, on peut les applaudir. On est vraiment heureux de cette décision et le fait que vous allez être officiellement dans la famille de Dieu. Et dans la famille clé. Et on est tellement heureux pour ça. Et peut-être, si ce n'est pas ton cas, réfléchis à te dire, si ça brûle dans ton cœur, montre-le. Comme quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu te maries avec elle. Tu ne veux pas faire autre chose que de t'engager avec elle. Ben, c'est la même chose. Et ça, c'est le baptême d'eau. Donc on a vu ces 3 baptêmes. Le baptême de repentance, baptême où on sent notre noirceur, notre cœur qui est dur, notre cœur qui fait du mal. Le baptême du Saint-Esprit, donc le baptême de repentance, c'est nous qui faisons un pas en disant « Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. » Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu entend notre prière. Et Dieu est attiré. Le baptême de repentance, la repentance, le fait de demander pardon à Dieu, ça attire la présence de Dieu. Ça attire le Saint-Esprit qui vient et qui vient te donner d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Il vient activer la carte SIM. Et une fois que ta carte SIM, elle est activée, wouhou, c'est la folie. Parce que plus personne ne peut désactiver cette carte SIM. Plus personne ne peut la désactiver. Et après, le 3e baptême, c'est le baptême d'eau. Du coup, si on fait un bilan par rapport à Pierre et à Paul, Pierre, pendant ces 3 années, il a il a vécu des choses extraordinaires avec Jésus, mais ça ne suffisait pas. C'était, on va dire, un peu ce qu'on pourrait dire aussi pour nous, c'était ta religion. Alors non, Jésus n'était pas religieux, mais dans le sens, connaître Jésus avec sa tête et avec ses yeux, avec ses cinq sens, c'est un bon début. On passe par là, on est tous passés par là. Mais si tu t'arrêtes là, ta vie, la carte SIM n'est pas activée, il te manque quelque chose, il te manque le plus important. Et ce matin, s'il y a une seule chose qui résume tout ce que je veux dire, c'est juste, ne regarde pas Jésus avec ton corps, ton âme, mais regarde Jésus avec ton esprit. Alors l'esprit, c'est un peu compliqué, parce que le corps, on peut le toucher. L'âme, les émotions, on peut les ressentir, c'est concret. L'intelligence, on arrive à définir ce que c'est. Les émotions, l'intelligence, la volonté. Mais alors l'esprit, mon esprit, qu'est-ce que c'est que ça, mon esprit ? Alors l'esprit, c'est un peu tout ce qui est intuitif. L'esprit, c'est les choses qu'on... C'est le contraire, on va dire, c'est le contraire de quelque chose de, qu'on peut mettre dans une boîte ou qu'on peut définir. C'est le côté instinctif. L'instinct, on ne peut pas le définir. L'instinct, ce n'est pas la raison. Et souvent, notre esprit, c'est lui qui se connecte avec l'esprit de Dieu. Vous savez, on a été créé en trois dimensions. On a été créé avec un corps. Notre corps, c'est pour toucher, c'est pour attraper, c'est pour sentir, entendre, c'est pour être en connexion avec le monde terrestre. Ça, c'est notre corps. Dieu a bien fait les choses. Hein. Notre âme, c'est notamment, alors pas que, hein, mais notre âme, elle est là pour se connecter les uns avec les autres. Au niveau relationnel, on peut se connecter avec les uns et les autres. Et ça, c'est notre âme. On peut se connecter. Et notre esprit, il a été créé pour qu'on puisse se connecter avec l'esprit de Dieu et donc avec Dieu. C'est juste fabuleux. Et ce matin, s'il y a une seule chose que tu dois retenir, c'est ça. C'est de dire comment tu te connectes avec Dieu. Est-ce que c'est tellement facile de se connecter avec son intelligence ? C'est tellement... Paul, avant de rencontrer Jésus sur la route, le chemin de Damas, il connaissait Dieu qu'avec sa tête. Il connaissait la parole de Dieu sur le bout des doigts. Et pourtant, il faisait n'importe quoi. Pourtant, il était totalement à l'envers. Pourtant, ce qu'il faisait, c'était le contraire du plan de Dieu. Il persécutait les enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il voyait Dieu qu'avec ses yeux, qu'avec son intelligence. Et l'intelligence, on dit la lettre tue, les écritures tuent. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, les écritures tuent. Et quand tu lis la parole de Dieu, ne les lis pas tout seul. Fais pas comme Paul. Ne les lis pas sans demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi ces choses, révèle-moi ces choses. Et quand il y a un mélange entre notre propre intelligence et l'Esprit de Dieu, vous savez ce que ça crée ? Une bombe atomique, ça crée ce que Paul a écrit, les épîtres. Les épîtres, je suis tellement fan dans la Bible, si je dois ouvrir un passage, hormis les évangiles, je lis les épîtres, c'est le catéchisme, c'est comment on marche avec Dieu, c'est une révélation. Paul a une révélation de fou, incroyable, parce qu'il mélangeait à la fois sa connaissance des Écritures et l'Esprit de Dieu. Et c'était juste incroyable. C'était juste fabuleux. Merci Jésus. Du coup, je veux t'inviter ce matin à développer une intimité, une amitié avec le Saint-Esprit. Pour développer une intimité avec le Saint-Esprit, c'est important de connaître qui est le Saint-Esprit. Et je finirai juste avec ça. Vous savez, le Saint-Esprit, souvent, il est défini de différentes façons dans la parole de Dieu. Et souvent, le Saint-Esprit, on le réduit. Qui est le Saint-Esprit pour toi ? Est-ce que c'est un esprit ? Mais un esprit, c'est quoi un esprit ? Un esprit, il n'a pas de corps ? Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas de corps ? Si, le Saint-Esprit a un corps. Il y en a même plusieurs. Il est marqué dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit vient dans nos corps. Il vient en nous. Il vient habiter en nous. On est le temple du Saint-Esprit. Du coup, le Saint-Esprit, il n'est pas loin. Il est juste en toi. Souvent, le Saint-Esprit, on peut le comparer à une ombre, vous savez ? Une ombre, où que j'aille, mon ombre, elle me suit. Si je suis dans un endroit ténébreux, où il n'y a pas de lumière, mon ombre, je ne la verrai pas. Ben là, par exemple, ouais, je la vois parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Mais si je sortais dans la pièce à côté, je ne la verrais pas. Mais ce n'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'est pas là. Et le Saint-Esprit, c'est ça. Que je le vois ou que je ne le vois pas, il est toujours avec moi. Et ça, c'est juste génial. De savoir que j'ai Dieu en personne qui habite en moi. Waouh. Et le Saint-Esprit, souvent, on le limite juste à une sensation. Des fois, dans nos milieux charismatiques, on dit « Ah, je sens la présence de Dieu ». C'est bon, c'est la présence de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas juste une présence. Alors oui, une présence, ça peut encore passer parce qu'un être, en tant qu'être, il a une présence. Mais il n'est pas juste une atmosphère, il n'est pas juste des picotements, une chaleur. Ça, c'est réducteur. C'est très réducteur. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Bien sûr qu'on agit, nous, on n'a aucun pouvoir pour changer le monde quand on prie pour un malade et qu'il est guéri. C'est pas nous qui pouvons guérir le malade. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la personne du Saint-Esprit. Jésus, la personne de Jésus, on a plus de facilité à l'avoir parce que Jésus, il est décrit dans les évangiles, il avait un corps. C'est plus facile. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, Jésus, il a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi ? D'une, parce que Jésus ne peut pas être avec chacun d'entre nous sur cette terre. Et Dieu, et Jésus en plus, ne voulait pas que, comme Pierre, l'image qu'on pouvait porter à Dieu soit juste une image terrestre. C'est pour ça qu'il a dit, il vaut mieux que je m'en aille, comme ça vous recevrez le Saint-Esprit directement en vous, et là ça sera la vraie vision de qui est Dieu. Alors comment tu fais pour marcher avec le Saint-Esprit ? Bah, tu lui parles. Tu lui parles comme un ami, il est avec toi tout le temps. Il t'entend, il est toujours là. Le Saint-Esprit est le seul Dieu sur terre aujourd'hui. Jésus n'est plus sur terre, il y a été, il n'y est plus. Dieu le Père n'est pas sur terre, ils sont dans le troisième ciel. Mais celui qui est sur terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et comment peut-on se passer du Saint-Esprit ? C'est comme si demain, je vous dis, à 14h, Jésus, il fait un meeting sur la Comédie, à 14h demain, est-ce que tu vas y aller ? Bah oui. Sauf que le Saint-Esprit, il fait des meetings tous les jours, il n'y a pas besoin d'aller sur la Comédie, il est en toi. Si tu savais que tu avais rendez-vous avec Jésus demain sur la Comédie, t'arrêterais ton boulot, tu dirais à ton patron, excusez-moi, j'ai un impératif, demain je vais aller écouter Jésus, je vais pouvoir le serrer dans les bras. Parce qu'on a une image qui est ce qu'elle est, mais le Saint-Esprit c'est la même chose. Le Saint-Esprit, pas besoin que tu ailles sur la Comédie, le Saint-Esprit le matin tu te réveilles et tu dis, ah oh, bonjour Saint-Esprit, ah oh, Saint-Esprit je veux passer cette journée avec toi, j'ai besoin de toi, je veux comprendre les profondeurs de qui tu es. Et le Saint-Esprit, vous savez, sa mission, c'est de nous révéler Jésus. Jésus l'a dit, quand je vais partir, je ne vais pas vous laisser orphelin. Le Saint-Esprit, il va venir et il va dire tout ce que je suis. Et il va faire encore mieux que quand j'étais là, parce qu'il va vous dire des choses même que je n'ai pas pu vous dire. Et le Saint-Esprit révèle Jésus. Et Jésus révèle le Père. Donc le Saint-Esprit révèle le Père. Et c'est juste fantastique. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère. Alors, est-ce qu'il y a un protocole à respecter pour recevoir le Saint-Esprit ? J'en ai un petit peu parlé. Je vais le redire vite fait. Il faut passer par Jésus. La porte d'entrée, c'est Jésus. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. C'est parce que tu es attiré par Jésus, comme Pierre. Pierre a été amoureux de Jésus. Il l'a renié 3 fois, mais il était quand même amoureux de Jésus. Et après, Pierre, la fin de l'histoire, c'est que comme Paul, il a vécu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, qu'on a fêté il y a 15 jours. Et là, le Pierre qui avait renié Jésus a été prêt à mourir en martyr, a été prêt à mourir sous d'horribles tortures parce qu'il confessait que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, comme l'a fait Paul, parce qu'il avait reçu ce baptême du Saint-Esprit. Et pendant que je vous parle, le Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, il est dans vos maisons. Et là, il coule sur vous. Il est en vous, il veut se révéler à vous. Il était déjà là. Il était comme votre ombre. Mais il se révèle à vous. Et c'est facile. Est-ce qu'il y a besoin de 15 ans d'expérience, d'avoir fait des études, longues études pour discuter avec le Saint-Esprit? Non, un enfant peut adopter le Saint-Esprit, peut collaborer avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça passe pas par l'intelligence. C'est la gloire de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Il y a juste besoin, il y a le cerveau d'un côté et notre esprit d'un autre côté. Et notre esprit, l'esprit d'un enfant, il est autant ouvert que n'importe quel esprit. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expertise. Par contre, il y a des choses qui freinent le Saint-Esprit, et je finirai avec ça. Ce qui freine, c'est le fait que tu ne connaisses pas la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te parler souvent avec la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est comme si le Saint-Esprit, il te parle en japonais, et toi, tu ne connais pas un mot de japonais. Du coup, tu entends du japonais dans ta tête, et tu te dis, c'est quoi cette langue bizarre ? Donc, apprends le japonais, apprends la parole de Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit va te parler, il va te donner des paroles que tu as déjà lues dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, vous savez, c'est Jésus incarné. Et j'ai dit, Saint-Esprit, il révèle Jésus. Donc, il révèle la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour avoir de la connaissance. C'est aussi pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. On peut attrister le Saint-Esprit par nos péchés. Tout à l'heure, je vous ai raconté ce que j'ai vécu, cette parole que j'ai pu dire. Ça a attristé le Saint-Esprit. D'ailleurs, ça m'attriste aussi, moi. Et on peut attrister le Saint-Esprit, mais attrister le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit, il s'en va, il vient. Ah, Olivier, aujourd'hui, Olivier, il est bien. Hein. Il est à fond pour Dieu, je viens. Aujourd'hui, Olivier, il n'est pas terrible. Non, je reviendrai demain. Non, ce n'est pas comme ça qu'il marche le Saint-Esprit. On peut l'attrister, en effet, mais on ne peut pas le décevoir au point où il va quitter notre vie. On ne peut pas perdre cette connexion. La carte SIM, une fois qu'elle est activée, personne ne peut l'enlever. Ça, c'est la bonne nouvelle. Merci, Jésus. Et le dernier point, c'est la foi. Si tu n'as pas foi, Jésus dit que le Saint-Esprit, il va venir. Et le Saint-Esprit, il est le temple. On est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois ce matin que tu es le temple du Saint-Esprit? Même si tu as péché au petit déjeuner, tu es le temple du Saint-Esprit. Même si tu ne connais pas encore Jésus, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Quel Dieu voudrait venir habiter dans sa propre créature? C'est juste... Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu es le temple du Saint-Esprit? Si tu ne crois pas ça, tu ne pourras pas marcher avec le Saint-Esprit, vraiment. Et ce matin, on va juste prier avec ça, que tu aies la foi. Si c'est marqué, c'est la vérité. Et tu vas l'expérimenter. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas sa présence, le Saint-Esprit est en toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit que tu veux prendre plus de place dans nos vies. Merci Saint-Esprit que tu es le Dieu sur terre, qui règne sur terre, pour faire régner Jésus et pour faire régner le Père. Merci Saint-Esprit qu'on a foi en toi, on croit en toi. Merci qu'on croit que tu es un Dieu de la même nature que Jésus et de la même nature que le Père. Merci Saint-Esprit qu'avec toi, les choses elles sont fabuleuses. Seigneur, je te prie que la vie de Paul, qui a été baptisé du Saint-Esprit, la vie de Pierre, qui a vécu ce baptême à la Pentecôte, ce soit notre vie, que ce soit ma vie, que ce soit la vie de tous ceux qui écoutent ce message ce matin. Seigneur, on ne veut pas vivre une vie comme Pierre pendant les 3 ans où il était avec Jésus, une vie où juste on connaît des choses de Jésus, on a entendu parler de Jésus, mais ça reste là. On veut plus, on veut plus, Seigneur. Et on veut plus parce qu'on a besoin de toi, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, viens vraiment que tu sois, on soit amoureux de toi. On soit amoureux de toi. On veut te chérir à chaque instant. On veut te parler tout au long de la journée. On veut te désirer, on veut faire ton bonheur, on veut faire ce que tu désires, on veut faire ce que tu as sur le cœur, Saint-Esprit. Merci de nous faire encore grandir d'une étape ce matin, dans notre intimité avec toi, Saint-Esprit.